Mathias. Mathias. OK, on s'en va dans Romains 6. Nous allons lire dans Romains 6, les versets 14 jusqu'à la fin. Parce que là, je ne sais pas combien de territoire on va pouvoir couvrir. Mais, on va commencer au verset 12. Juste se mettre un peu dans le bain, je veux regarder les choses verset par verset, mais aussi vous donner un peu plus aussi la vue d'ensemble, parce que là, c'est une nouvelle section qu'on commence. Une sous-section, on peut dire, là, dans le chapitre 6. Donc, Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, dès qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes maintenant devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car comme lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez maintenant. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Juste pour vous donner une couple de remarques d'introduction, on pourrait dire se remettre un peu dans le tempo, parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas été dans notre étude de Romains. On peut dire, la section, là, est-ce qu'il y en a qui vont dire que c'est à partir du verset 14, d'autres à partir du verset 12, mais disons de 12 à 23, là, en gros. C'est beaucoup le transfert de, il a parlé de vérité sur notre union avec Christ, c'est ça. Puis là, vraiment, il change pour parler de la consécration, de se donner à Dieu. La consécration, ça signifie qu'on ne s'appartient plus, OK? Puis, on se consacre parce que on est mort au péché, puis on est vivant pour Dieu. Donc, la consécration est le fruit de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est la suite logique. Pourquoi je me consacrerais? Pourquoi je me donnerais à Dieu? À cause de ce que Dieu a fait de moi. OK? Puis là, on va développer un peu plus là-dessus. Je pense qu'il y a des remarques que j'avais déjà dit auparavant, mais c'est toujours bon d'avoir une certaine dose de révision. La consécration, ça ne veut pas dire que je donne à Dieu ce que j'étais avant. La consécration, ça veut dire que je me contrôle, c'est plus moi qui contrôle ma vie, puis que je me permets à Dieu de contrôler ma vie. Mais ça, c'est actuel. Je ne donne pas à Dieu ma vieille vie. Il s'en est déjà occupé. Je donne à Dieu ma nouvelle vie. Parce que je suis mort au péché, maintenant je suis vivant pour Dieu. Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu? Sa vie, son œuvre, ce que lui fait en moi. Le reste, c'est de l'ancien. Pourquoi je donnerais ça à Dieu? Il s'en est déjà occupé. Je suis mort avec Christ, je suis vivant pour Dieu. Comprenez-vous? La consécration, c'est on donne à Dieu ce que lui a fait de nous autres. Comprenez le concept? Je pense qu'on en a déjà parlé auparavant dans un autre. Je donne à Dieu. Dieu, tu sais ce que tu fais de moi, là? Fais ce que tu veux avec. Tu es en train de faire un œuvre. Je te laisse le contrôle de faire. Ça va dans le sens de ce qu'on voyait ce matin. Dieu, je te laisse faire ce que tu veux avec moi, je m'attends à toi. Je pense que c'est quelque chose que le Saint-Esprit tape pas mal sur le même clou dernièrement. Je l'avais dit dans le dernier message de dimanche matin, passé. Puis bon, matin, je ne l'ai peut-être pas dit dans ces mots-là, mais vous rappelez, je vous avais dit que le Seigneur, il met l'emphase beaucoup sur qu'est-ce qui me contrôle ou qui me contrôle. Et c'est, dans le fond, pensez-y, la vie chrétienne, c'est ça. On parlait ce matin de dépendre de Dieu. C'est quoi dépendre de Dieu? C'est lui laisser le contrôle. Ben c'est ça, la consécration, il faut penser en ces termes-là. C'est pas, hey, Dieu, moi j'ai décidé de te donner ça, puis non, c'est Dieu, j'ai pas de contrôle, c'est pas moi qui décide. Je te donne ce que déjà il est à toi, puis ce que tu es en train de faire, donc j'ai pas de volonté propre à moi-même. Et la meilleure et littéralement parfaite illustration de ça, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est toute la beauté de ce qu'on apprend avec ce qu'on appelle là, un gros mot compliqué qui fait que j'ai de l'air smart en avant, là, la kénose. Que Jésus, hein, s'est dépouillé lui-même. Jésus, là, il l'a dit, je fais rien de ma propre volonté, les paroles que je vous dis, c'est pas les miennes. Il disait tout ce qu'il avait entendu du Père, tout ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait de même. C'était une dépendance totale, OK? Mais Dieu nous appelle à vivre une même vie de dépendance totale à Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne, OK? Fait que c'est le même pattern, OK? Quelqu'un va dire, ah, oh, mais c'est pas juste Jésus, lui c'est Dieu, puis nous. Non, Jésus, il a mis de côté certains attributs qui le forçaient à dépendre. Par exemple, ça, c'était avec Yves que je parlais de ça. Jésus, avais-tu vraiment besoin de prier? Je veux dire, c'est Dieu, pas besoin de prier. Oui, oui, il avait vraiment besoin de prier parce que il était en position de dépendance. Il devait prier parce qu'il exprimait comme ça sa dépendance à Dieu, puis il s'appuyait sur lui en toute chose. C'est pour ça que, avant des grandes décisions, je ne sais pas si vous avez vu dans les évangiles, là, dernièrement, je ne sais pas si vous aviez remarqué auparavant, mais Jésus, avant des grands temps décisifs de sa vie, il passait des nuits dans la prière au complet. Avant de choisir ses disciples, le sermon sur la montagne, en tout cas, je ne me rappelle plus toutes les instances, mais avant des moments critiques de sa vie, évidemment, on dit avant la croix, là, mais même dans d'autres moments avant ça, il priait. Il était avec son Père en communion, puis il vivait cette dépendance-là totalement. OK? Puis quand on l'a vu ce matin, tout ça, c'est beau. C'est bon que Dieu ait fait ça de même, que lui veut contrôler, puis c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que Dieu, puisqu'il est bon, puisqu'il est amour, quand il contrôle, tout va bien. Ça ne peut pas aller mal. Parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime. Fait que quand il contrôle, on peut vraiment être sans souci. Moi, je vous dis, c'est tellement révolutionnaire, ce concept-là. C'est reposant. J'ai en donné une illustration de ce matin avec l'année 2022, mais même encore, tu sais, quand je vois du monde et des affaires, mettons que, tu sais, dans nos vies, des affaires, des décisions à prendre, des choses qu'il faut qu'on fasse confiance à Dieu, des choses qu'on a peur ou peu importe, ben. J'ai pas à me stresser de, ben là, faut bien que tu le fasses, là, parce que là, ça fait dur de pas faire ça, là, quand tu fais pas ça, mais ça va pas bien dans ta vie, là, puis là, tu sais, de tout comme, devenir tout agité. Oui, OK, c'est vrai. C'est quelque chose qui faut que tu t'occupes. Mais le fardeau de, il faut que tu t'occupes, tout ça, ça repose plus sur mes épaules, puis tout ça, pourquoi? Parce que ma confiance est en Dieu. Moi, j'ai fait le bout que j'ai à faire, je prêche la parole, en toute occasion favorable ou non. Je reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant, mais c'est qui fait le travail? C'est qui amène la personne au point qu'elle doit être rendue? C'est Dieu. Fait que moi, je m'en vais avec ça, puis il n'y a pas de souci. Hein? Puis c'est vrai pour nous autres, pour nous, dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église. Puis c'est une bonne chose. Juste pour donner une illustration. Parce que là, on parle de Romains 6. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un Romains 6? Ben, tu sais, l'œuvre que Dieu fait dans notre Église, puis qu'on se réjouit qu'il fait, là, ben, on est en train de vivre cette consécration-là. Fait que finalement, Dieu, on est en train de nous enseigner, tout le monde, en tant que corps, en tant que, qu'individu, en tant que croyant. Il est en train de nous dire, tu sais, ce que je fais, là, dans ta vie, là, ben, laisse-moi-en le contrôle. Puis, tu sais, on voit ça, moi je le vois dans nos relations interpersonnelles les uns avec les autres. Par exemple, tu sais, puis j'ai réfléchi pas mal avec ça, sur ça ces derniers temps. Je pense que ça, de plus en plus, travaille à nous libérer, à briser, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous affranchit de la loi de la peur. Du péché puis de la mort, mais la puissance de la peur. Avez-vous déjà pensé comment c'est puissant la peur dans la vie de quelqu'un? Mais dans la vie d'une église, là, c'est incroyable. La peur, là, ça peut... Tu sais, pourquoi je serais vrai? J'ai peur de ce que les autres vont dire. Puis souvent, on a raison, parce qu'on a été... tu sais, chaud et chaudé, craint l'eau froide. Des fois, on a voulu être vrai, puis oups, ça nous a servi contre nous autres, puis tout ça. Ben, c'est quoi la consécration? C'est Dieu qui nous enseigne. Non, non, vu que je fais un œuvre, là, tu peux... T'as la liberté, là, d'être vrai. Là. T'as la liberté, là... de ne pas être rendu à la même place que l'autre. Tu as la liberté d'avoir de la misère puis de le partager avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que la consécration, c'est pas juste cette liberté-là, c'est aussi l'autre. L'autre, là, qui t'a partagé cette chose-là, là, tu sais, qui s'est mis vulnérable, là. Quand on comprend que c'est Dieu qui travaille dans nos vies, ça veut dire aussi probablement qu'il travaille dans la vie des autres, là, puis qu'on ne stresse pas trop le pompon pour nous-mêmes, on peut aussi se calmer le pompon pour l'autre, qui viennent nous partager la chose, puis ça change complètement. Puis je dirais que c'est le bout le plus important. Parce que souvent, on parle d'honnêteté, puis tout ça, puis de vouloir être vrai. C'est vrai dans la partie de celui qui le dit, mais dans la partie de celui qui le reçoit, c'est super important, parce que souvent, c'est là que ça va bloquer. J'ai voulu être vrai, j'ai mangé une taloche, je vais fermer ma boîte, puis le restant de... Mais c'est vrai, c'est tellement typique. Et donc, c'est ça. C'est ça, s'offrir à Dieu, c'est ça la consécration. Dieu fait cette œuvre-là maintenant, je le vis dans mes relations. Dieu m'enseigne à m'attendre à lui, puis à ne pas être agité quand il y a des choses qui ne sont pas comme je veux, puis le contrôle, ben, je le vois aussi dans la vie des autres. C'est Dieu qui contrôle leur vie. Je ne peux pas contrôler la vie des autres, sachant ça, on vit, on se consacre à Dieu, on apprend à se consacrer à Dieu. Amen. Comprenez-vous, là?
Amen.
J'ai comme voulu asseoir un peu le... Tu sais, parce qu'on des vérités de Romains 6, c'est plus que juste de l'abstrait. On vit ça en ce moment, on apprend à vivre ça. Puis là, ce que Dieu fait, on lui redonne, on le vit dans nos vies personnelles, dans nos relations interpersonnelles. Donc, là, juste pour vous donner un peu un topo, là, en gros, ce qu'on voit au début des versets, là, à partir du verset 12, là, beaucoup, c'est « offrez ». « Offrez-vous, offrez-vous ». Puis ça commence... au verset 12, que le péché ne règne donc point. Je pense qu'en anglais, je vais pas vérifier, mais je pense que ça dit therefore. En anglais, on dit quand que what is this therefore, therefore? Pourquoi ce pourquoi est là? Pourquoi ce pourquoi? Ben, c'est que ça ramène à ce qui était dit avant. C'est-à-dire que le péché ne règne donc point. Donc, à la lumière de ce qu'on a vu, là, le péché, là, il n'y a plus à avoir ce règne-là parce que. Tu sais que tu es mort au péché et tu te vois maintenant comme mort au péché puis vivant pour Dieu. Hein? Tu te considères, comme ça dit au verset 11, tu te regardes comme mort au péché, vivant pour Dieu. Donc, s'offrir comme ça, c'est le fruit de ce qu'on croit sur ce que Dieu a fait de nous autres. Et donc, c'est beaucoup ce qui revient. Donc, à partir du verset 12, là, c'est toute cette notion-là de s'offrir à Dieu, se donner, OK? Ou pour le mettre dans des mots qui sont plus loin, là, dans le chapitre 12, offrir nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, c'est notre culte raisonnable. OK? Fait qu'on est déjà là dans ces éléments-là, dans le chapitre 6. Puis là, il y a une notion qui est amenée, qui n'était pas là avant, la notion de l'esclavage. Puis là, ça parle d'esclavage à Dieu ou au péché. Et donc, là, ça parle de se livrer à un et de se livrer à l'autre. L'idée de se... de l'esclavage, c'est celui à qui tu te donnes, à qui tu laisses le contrôle. Alors, vient notre idée de contrôle. Être esclave, c'est celui à qui je vais donner le contrôle. Être esclave du péché, c'est le péché qui me contrôle. Être esclave de Dieu, c'est Dieu qui me contrôle. Puis là, il y a des résultats à ça. Ça, c'est les fruits. C'est pour ça que ça dit, avant, vous étiez sous le contrôle du péché, vous étiez esclave du péché, ben vous rougissez des fruits que ça donnait. Maintenant, vous êtes esclave de Dieu, ça a pour fruit la sainteté. Des choses, tu sais, des choses qui sont bonnes, qui glorifient Dieu, qui la sainteté qui montre que vous êtes à part, que vous êtes plus de ce monde. Vous avez quelque chose de distinct. Vous avez la marque de Dieu sur votre vie. OK? Donc, c'est ça toute la logique du passage. Donc, on avance tranquillement avec ça. Juste un petit point, puis je pense, je veux revenir là-dessus. J'avais amené des notions de ça peut-être auparavant. Des fois, ça se recoupe des choses quand on voit certains enseignements. J'ai parlé déjà de c'est quoi qu'on présente à Dieu. On présente l'homme nouveau. On présente ce que Dieu a fait de nous autres, OK? Autrement dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je présente Christ, c'est ça ma consécration. Mais, qu'est-ce qui se passe quand je m'offre à Dieu? Je vais faire une petite pause là-dessus. Ça, c'est fun, quand tu t'offres à Dieu, là, tout se met à bien aller, puis là, c'est le vrai évangile de la prospérité. Tu n'as plus de problèmes dans ta vie, les enfants ne sont plus jamais tannants, les collègues de travail, c'est des anges. Notre mari, notre épouse, hey, je vous dis, là, c'était rendu un monde de licorne quand on s'offre à Dieu. Non, en fait, c'est probablement pas mal le contraire. Je vais donner des petites illustrations ici. Puis c'est celle-là que, ça se peut que je l'ai déjà donné l'illustration, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui est arrivé quand le petit gars en Galilée, tu sais, on apprend la multiplication des pains, là. Et là, on apprend, c'est un petit gars qui avait son lunch, dans le fond, qui a partagé. Donc, il l'a donné à Jésus, il l'a consacré. Puis qu'est-ce que Jésus a fait? Ah, il a béni plein de monde, mais il l'a rompu, il l'a brisé. Il y a une image là-dedans. Quand on se donne à Dieu, Dieu va briser. Vous avez remarqué des fois, tu es là, puis tu es tout motivé, tu veux te donner à Dieu. Ah, puis là, je bouge. Ah, puis là, je vais faire ce que faire là-bas. Il part. Ah, non. Okay. Non, c'est parce que je me suis rendu compte en bougeant, lui, c'est levé tout de suite. Quand on se donne à Dieu, c'est là que ça se met à aller mal. En fait, c'est pas parce que ça va mal. C'est Dieu qui nous enseigne à le laisser contrôler. Parce que nous, on est habitué. C'est quoi? Dans notre tête, c'est quoi ça va bien? C'est quand on contrôle, quand tout est sous contrôle, on sait comment ça va arriver. En fait, ça arrive. C'est pas vraiment vrai non plus, mais disons que c'est dans le malheur pour nous autres. C'est la zone de confort, on est habitué. Puis là, pouf, on s'offre à Dieu, puis là, pouf, tout dégringole, il n'y a plus rien qui marche. Hey, puis moi, j'ai déjà, littéralement, là, j'ai déjà vu des gens qui ont dit, ben là, c'est ça, se donner à Dieu, puis là, ils lancent la serviette, ils sont découragés. C'est malheureux parce que il y avait là toute la leçon, il y avait là toute la vie. C'est là que ça se passait, puis au moment où ils étaient rendus, tu sais, ils attendaient le rendez-vous, l'autobus qui passe, puis vu qu'ils n'arrivaient pas, ils sont partis de l'autre bord. Mais tu sais, le Seigneur s'en venait. C'était là, la table était mise, mais... Puis c'est ça, justement, quand on s'offre à Dieu, il brise nos plans, il brise nos... Tu sais, nos ambitions, ce que nous, on voulait. Puis là, on dit, ben, c'est un échec, ça marche pas. Non. Il y a rien de pire qu'avoir du succès dans ce qui compte pas pour Dieu. Fait que quand Dieu brise ce qu'on lui offre, c'est parce qu'il dit, ça, c'est pas bon pour moi. Voici ce que moi, je veux faire. Une autre illustration de ça. Le petit gars, lui, s'est fait briser son lunch, OK? Bon, c'est une illustration, je veux dire, partez pas une grosse doctrine là-dessus, là, c'est juste une image, là, mais une image beaucoup plus forte, puis là, ici, l'interprétation est beaucoup plus solide. C'est pas juste une illustration, ici, c'est une interprétation. Quand Jésus parle du Père qui est le vigneron, il est la vigne, nous sommes les branches, il parle du Père qui émonde. C'est quoi émonder? Émondé, c'est couper les branches qui ne portent pas du fruit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Nous, on avait un pommier, là, puis à un moment donné, au printemps, là, un peu avant ce temps-ci de l'année, il y a des branches, là, ça a un nom. Là. Ça pousse tout douette. Là. Une espèce de branche là, qui. Ouais, ça comment? Ça pousse en orgueil.
Ouais.
Ouais, ça pousse de même, puis ça, là, je veux dire, ça fait juste tirer du jus. Dans le fond, ça prend de la sève, puis. Puis ça, ben, quand tu t'occupes d'un arbre, ben, tu coupes tes affaires-là parce que ça va pas porter de fruits. Souvent, tu as déjà des branches qui fleurissent quand c'est le temps de la floraison, puis ils vont avoir des pommes puis tout ça. Mais pas ceux-là. Puis quand on s'offre à Dieu, hey, Dieu, voici, là, ben, Dieu dit OK, hey, je suis content que tu t'offres, mais ça va pas porter de fruits, ça. Merci, là, mais pas besoin. Comprenez-vous? Ça, c'est Dieu qui émonde. Ça, c'est te t'as une bonne intention, tu veux bien faire de quoi avec ça, mais ça va pas porter du fruit. Là. Fait qu'on va pas perdre de temps avec ça, on coupe ça. Puis, ça, c'est la partie douloureuse de la consécration. Faut pas se faire des illusions. Quand on se consacre à Dieu, ça va arriver. C'est pas « ça va-tu arriver? » Ça va arriver. Puis c'est bon que ça arrive, parce que c'est comme ça que Dieu est glorifié, hein, qu'on porte du fruit à sa gloire. On ne veut pas porter du fruit à notre gloire, on fait des affaires, puis finalement on est déçu, on a toute mis cette énergie-là, puis ça n'a rien donné. Fait que Dieu, dans sa bonté, quand on s'offre à lui, il fait cet émondage-là. Puis, tu sais, parce qu'on dit on offre à Dieu ce qui est de lui, mais des fois, dans l'offre, là, il y a un peu du mélange, là, il y a du nous là-dedans, mais Dieu fait le mélange de ça pour finalement qu'on offre ce qui va porter du fruit, ce qui est de lui. Puis ça va le glorifier. OK? Donc, c'est ça, ça ne sert à rien de protester, de regimber contre les voies de Dieu. On a simplement à rester là, dans le calme, la confiance, et dans le calme, mais la confiance sera votre force. Puis, restez sous la fontaine. Et que Dieu, lui, va s'occuper de tout ça pour que tout arrive au bon point, au bon moment, comme il le veut. Tout ce qu'il demande, c'est cet acte initial. Dieu, je me donne à toi. Puis je veux, c'est ça, ce que toi t'as commencé, cette œuvre de toi qui est de toi, que t'as continué. Vas-y, le contrôle est dans tes mains. C'est pour moi qui contrôle. Puis là, jour après jour, avec le temps, à mesure qu'on est dans ce processus-là, qu'on apprend par la foi à simplement s'abandonner de même à Dieu, bien, on va faire une belle œuvre, puis nous autres, on va s'en réjouir, puis la gloire, la louange va toute aller à lui. Ceci étant dit, juste pour un peu aller dans nos versets, brièvement, parce qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir le passage, mais bon, on a parlé dans le verset 13 de se livrer, puis tout ça, mais quand on arrive au verset 14, je vais juste regarder un peu le verset 14 avec vous autres. Ben, des fois, c'est mal compris, ça. Ça dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » Souvent, ça, c'est galvaudé, là. « Ah, je suis sous la grâce, puis trois petits points. » Puis il y en a qui ne veulent tellement pas aller là, qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la grâce de Dieu. Fait que là, tu sais, il y en a qui partent à course d'un bord puis de l'autre, puis il manque encore là le rendez-vous divin en plein ou ce qui était là, tu sais. Parce que tu peux réagir trop loin d'un bord de « Hey, là, je veux pas pécher puis tout ça, fait que je veux pas prendre la grâce comme un prétexte, mais tu n'expérimentes pas la grâce, ou tu veux tellement prendre la grâce comme un prétexte que finalement tu n'expérimentes plus la grâce parce que c'est rendu un prétexte pour faire ce que tu veux, puis justement être détruit par ça. » Ça, on ramène les choses. C'est quoi que ça nous dit? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la grâce, non sous la loi, mais sous la grâce. Je vais juste amener ce point-là par rapport au verset 14. Je pense que ça va tout nous aider à comprendre. Pourquoi le péché aurait plus de pouvoir sur nous, de contrôle sur nous? Ben, parce qu'on est sous un contrôle plus grand. Tout le temps la question de contrôle. Mes amis, on est des control freaks. On veut tout contrôler. Puis Dieu dit, c'est moi qui contrôle. Puis la foi dit, oui Seigneur. Puis la foi le voit, le croit. Puis c'est là toute la question ici, pourquoi? Parce que j'explique. Être sous la loi, c'est moi qui contrôle. J'ai tout appris comment qu'on fait, puis je suis capable de faire ça. Moi, je veux dire, j'ai fait ça pendant des années. Hey, c'est la bonne loi de Dieu, c'est sain, c'est bon. Mais au bout du compte, est où la dépendance? Est où le contrôle, il est où? Je suis capable de l'avoir complètement. Mais quand ça dit le péché a encore plus de pouvoir. C'est pas dans le verset, mais ça dit le péché n'aura pas de pouvoir parce que vous êtes sous la grâce, mais ça l'implique par logique là, que je vais être sous le contrôle du péché si je suis sous la loi. Parce que c'est ça, le rôle de la loi, ça dit, t'essayes là, t'essayes bien fort, puis ça va. Plus t'essayes, moins ça va marcher. C'est ça le rôle de la loi. La loi est pour manifester le péché. Comme étant péché, comme étant abominable, pas abominable, condamnable au plus haut point, puis nous conduire à Christ. OK? Donc, si on comprend ça, OK, la notion de contrôle. Car le péché n'aura point de pouvoir, elle ne va pas contrôler votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en train de la contrôler vous-même. Vous êtes sous la grâce, c'est-à-dire vous êtes sous le contrôle du Dieu de toute grâce. Ou pour le dire dans des mots comme on a dit ce matin, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Ou quand on comprend comme il faut ici l'idée là, être sous la grâce, c'est être sous une relation où est-ce qu'on laisse Dieu nous diriger, où est-ce qu'on dépend de Dieu. Vous êtes sous la dépendance de la grâce de Dieu. Puis, pour le mettre dans d'autres mots, vous êtes sous la grâce, vous êtes la dépendance de votre chair, de ce que vous êtes capable de faire vous-même. Vous êtes sous la grâce, vous êtes sous la dépendance de l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu peut faire. C'est vraiment ça ici. Puis, ça nous aide à comprendre. Quelqu'un qui vous dit, là, « Ah, je suis sous la grâce, je peux faire n'importe quoi. » OK, c'est qui contrôle? C'est toi. « Hey, moi, je veux vraiment pas faire des folies de dire « je suis sous la grâce » puis j'ai tout régimenté ma vie. » C'est qui contrôle? C'est toi. Et vous? C'est une question de contrôle. Ça revient tout le temps à une question de contrôle. Et c'est pour ça que quand ça dit le péché, là, pour que la puissance du péché soit brisée dans notre vie, il faut que ça soit Dieu qui contrôle. Ou pour le mettre dans un verset qu'on a vu ce matin, puis j'ai répété même au début du message, car la loi de... Ça commence par un 4 verset, en tout cas. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. C'est ça ici que ça veut dire. Être sous la grâce, c'est être sous le contrôle d'une force, d'une loi plus grande que que l'autre loi. Il y a deux lois qui s'opposent, la loi du péché puis de la mort, puis la loi de la vie en Jésus-Christ. Ben, quand je me mets sous le contrôle de la vie, de la loi, de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ben, la puissance de contrôle de la loi du péché puis de la mort est brisée. Je suis plus sous ce pouvoir-là. Fait que vraiment, là, je vous dis, là, ça vient tellement simple, là, sous le contrôle de qui tu te mets. Dieu ou toi-même. Pas ça, là. Moi, pendant des années, je pensais que nous, on était les gentils, puis que les méchants qui disaient qu'on est sous la grâce, c'était eux autres qui ne l'avaient pas, mais on était pas mieux. C'était un control freak qui lance des tomates à un autre control freak. Il me manquait le point. Non, c'est passe à côté, mon ami, là. Les deux, vous ne l'avez pas. C'est se mettre sous le contrôle de Dieu. Puis c'est ça, justement, toute la notion de la foi. Il faut faire confiance à Dieu pour ça. Il faut croire qu'il vraiment... Il y a ce qu'il y a de notre mieux à cœur, notre bien-être, et qui nous aime, puis quand il nous demande des choses, pas pour nous rendre misérables, puis nous rendre la vie difficile, c'est le contraire. C'est pour nous libérer, puis nous affranchir, puis vivre toute la beauté de ce qu'il y a pour nous autres. Donc ça, vraiment, ce verset-là, c'est une super grande clé pour le passage, puis on va voir la semaine prochaine, là, par rapport à toutes les notions, pas la semaine, l'autre après, parce qu'on n'aura pas de Seigneur, mais... toute la notion de l'esclavage, de ça va découler, parce que c'est quoi l'esclavage? Je l'ai dit au début du message, c'est je me voue au contrôle de l'un ou de l'autre. Puis, ça va selon vraiment ce qui est énoncé dans le verset 14. Me mettre sous l'esclavage, sous le contrôle de la grâce, c'est ça la clé pour la délivrance du péché. C'est ça qui va faire vraiment la différence. Et comme notre soeur le disait ce matin, c'est pas la question de le comment, de la recette chrétienne, c'est le qui. Sous qui je me place mon contrôle, sous moi ou sous Dieu? C'est pas plus compliqué que ça. Avez-vous des questions? Oui, Sébastien?
Juste un verset qui m'a mis l'esprit quand tu parlais de ça justement. C'est de s'arrêter et vraiment savoir qui est Dieu. Comme le verset 46:11 dans
le psaume. Oui. Ouais, attends, quelqu'un avait dit ça, ma femme avait dit ça, c'était avec humour. There's only one God and it's not you, puis genre la place n'est pas allouée. Toujours de même, tu ne penses pas drôle. Tu sais, genre, il n'y a rien qu'un Dieu, puis c'est pas toi, puis l'espace n'est pas alloué, là. Genre d'affaire de même. Parce qu'on se prend pour Dieu vraiment quand on veut contrôler nos vies. Disons-le honnêtement, là. Nous, on ne va pas dire ça de même, là. Mais tu sais, vous serez comme des dieux, c'est ça, hein? Si vous voulez vivre de façon indépendante. Oui, Maxime?
Ok. Là, tu as dit c'est dans le calme et la confiance, puis tout ça, puis là, tu dans ma tête, Ésaïe 30.
Là. Ouais, puis là, tu vas nous sortir le gros contexte, là.
Ah, ouais. C'est sûr qu'elle va faire ça, là. Mais tu sais, c'est exactement dans le contexte de ce que vous dites, que c'est qu'il dit dans Ésaïe 30.
De se mettre sous le contrôle de l'Éternel.
Ben, plus que ça, même. Tu sais, au début, là, c'était un long chapitre.
Je cligne des yeux quand je t'écoute, tu peux.
Moi aussi, je crée des yeux, là. Tu sais, au début, c'est pendant, je sais pas, 10-15 versets, là, l'alliance avec l'Égypte, là. C'est malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, pour des alliances sans ma volonté, tout ça. Puis, tu sais, ils essaient de prendre leur appui sur l'Égypte contre les Assyriens qui s'en venaient les péter. Puis, là, tu sais, L'Éternel, il, avec raison, n'est pas content. Puis, il dit l'alliance avec l'Égypte, ça va rien servir, ça va être comme un roseau cassé. Avec raison, c'est exactement ce qui s'est passé.
Ouais.
Puis là, il parle du vase, comprise, puis tout ça. Il continue en disant car ainsi a parlé le Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu.
Mm.
Puis, là, attends, on va essayer de le faire sans broyer. ça continue à verset 16 et 17. Tout ça. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, la chair, là, tu sais.
Mm-hmm.
On va prendre la course à cheval, ils vont s'en tenir. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Non, on va monter des coursiers légers, des chevaux bien rapides.
Mm.
C'est pourquoi ceux qui poursuivront seront légers.
Mm.
Mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de cinq. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline.
Mm.
Là, par la chair, là, ça, vous allez tout péter.
Mm.
Puis, il n'y a personne qui va s'en sortir par la chair. Puis là, ça change de ton complètement en un verset. Puis là, c'est l'Éternel qui intervient. Puis ça, c'est la vie par la foi.
Mm.
C'est parce qu'une fois qu'il a humilié son peuple, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce.
Ouais.
Excusez. Et il se lève pour faire des efforts. Car l'Éternel est un Dieu juste. Ceux qui espèrent en lui.
Amen.
Tu sais, c'est continué. Ah, oui, peuple de Sion, habite en Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur te donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent.
Mm.
Tu sais, ça, c'est être conduit par l'esprit. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin de ma chise. »
Amen.
Fait que, tu sais, la voix dans la chair, ça va toujours nous mener vers prendre pour appui des choses souillées comme l'Égypte. Puis, par l'esprit, on voit tout un. Tout d'un coup, l'Éternel qui veut nous faire grâce.
Mm.
Puis après, ça finissait à « Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu n'en disperseras les débris comme une impureté. Or, d'ici, leur diras-tu, tu sais, l'esprit, c'est le travail de l'esprit. Par la chair, nous autres, ils auraient soit confié en eux ou même acheter des choses. On va aller fondre, on va se faire des armes, etc.
Mm-hmm.
On va acheter des guns, pas trop. Là. Mais l'esprit, c'est non. On s'est souillé, on ne peut rien savoir de tout ce qu'on a pris pour appuyer auparavant dans l'esprit.
Amen. C'est un bon. En fond, c'est comme résumé de ce que. Dans le fond, c'est un événement historique, mais on dirait aussi historique dans la vie de. De beaucoup, c'est beaucoup l'œuvre de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, justement.
Oui, c'est ça, il y a un grand parallèle à faire
avec. Amen. Yes. Mais savez-vous ce que je pense de tout ça? C'est un bon temps pour en parler à Dieu. Mon frère a dit, pourquoi on ne prie pas? Ben oui, pourquoi on ne prie pas? Fait que là, on a parlé.